Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Sacrée quête à Notre-Dame, des millions affluent par centaines pour reconstruire la cathédrale. Mais attention, ces dons défiscalisés en partie pourraient coûter cher à l'État. 5 ans, objectif 2024 pour la reconstruction, grande ambition d'Emmanuel Macron, 5 ans. Ça paraît bien optimiste, nous dira la maire du 5e arrondissement de Paris. Et puis nous serons sur place où on pense d'abord sécurisation avant de penser reconstruction. On en parle avec vos invités dans 20 minutes, Nicolas.
Il s'agit de l'architecte Jean-Michel Villemotte et de l'ancien ministre de la Culture, aujourd'hui conseiller culturel de François Pinault, Jean-Jacques Ayagon. Dans le grand entretien donc de la matinale, intervenez 01 45 24 7000, passez par les réseaux sociaux ou l'application France Inter.
Notre-Dame d'abord, la conclusion du grand débat. Plus tard, Emmanuel Macron attend que les cendres soient retombées pour faire officiellement ses annonces. Apparemment, il veut entre autres supprimer l'ENA. On verra ce que ça veut dire. À la une également, Jean-Marie Le Pen à la retraite. C'était hier sa dernière séance au Parlement européen qu'il a conspuée une dernière fois. La fin annoncée du dioxyde de titane dans les aliments. Et puis le printemps de Bourges sous le signe de Jacques Higelin cette année.
France Inter.
Pas de pièces, mais des gros chèques dans la corbeille de Notre-Dame de Paris. Depuis hier, c'est la surenchère de la générosité. Les familles Pinault, Arnault, Bettencourt, Bouygues et Decaux rivalisent à coups de millions. Des assureurs, des banques également avec la mairie de Paris et la région. 880 millions déjà promis pour reconstruire la cathédrale incendiée. Et c'est sans compter les dons en nature, Louis-Valentin Lopez.
Ce sont des filières entières qui se mobilisent, du mécénat de compétences. Certaines entreprises proposent de détacher gratuitement des salariés pour aider à reconstruire la cathédrale. Du mécénat en nature aussi, donner du bois de chêne. Un élan exceptionnel pour François Debiès. Il préside Admical, la plus vieille association de mécènes de France.
C'est un élan de solidarité qui touche absolument tout le monde, les entreprises petites et grandes. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental parce que vous avez bien en tête l'état fracturé, pour ne pas dire explosé, de la société française de ces dernières années. Et je pense que pour la première fois, on a un mouvement en sens contraire qui est en train de se produire, qui est un mouvement de rassemblement et de solidarité.
Mais il y a aussi les entreprises du CAC 40 qui rivalisent de dons faramineux. Un mécénat déduit des impôts à hauteur de 60%.
Les Français vont payer sous différentes formes, parce que la défiscalisation, ce sont des recettes qui viennent en moins pour l'État, des impôts qui viennent en moins, mais qui vont s'investir dans ce travail de reconstruction.
Mais cet élan hors norme qui pourrait approcher le milliard d'euros pèsera très lourd sur les caisses de l'État, alors que le gouvernement veut raboter sur les niches fiscales. Ces dons défiscalisés questionnent jusque dans la majorité.
Et cette problématique des dons et de leur défiscalisation, on en parlera lors d'un conseil des ministres exclusivement consacré à Notre-Dame de Paris ce matin à l'Élysée. Ensuite, une réunion aura lieu pour lancer la souscription nationale. Nous agirons et nous réussirons, a dit Emmanuel Macron hier soir, allocution solennelle, où il était autant question de Notre-Dame que de la France après le grand débat. On va y revenir. Mais ce qu'on retiendra des mots du président, c'est sa volonté de reconstruire la cathédrale en 5 ans pour les Jeux Olympiques de Paris. 5 ans, c'est beau, mais ça paraît court, dit ce matin la maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthoux.
J'ai quelques doutes. Je pense que c'est bien d'afficher du volontarisme. Il faut. Je pense que le chef de l'État veut afficher après l'immense détresse un espoir, rendre cet espoir palpable en fixant un calendrier. Je vois difficilement comment en 5 ans, cette cathédrale qui a été bâtie pratiquement sur 2 siècles, alors certes, elle n'est pas entièrement démolie, très loin s'en faut, fort heureusement, peut être totalement rebâtie. On peut peut-être y faire notamment au moment des Jeux Olympiques, un rassemblement extrêmement important, totalement rebâti, ça me l'air quand même extrêmement optimiste.
5 ans pour reconstruire entièrement la charpente de Notre-Dame, des kilomètres de poutres, 2000 mètres carrés de toiture, une flèche à fabriquer, des orgues à restaurer, sacré chantier qui n'est pas prêt de commencer. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Florence.
Vous êtes de retour devant la cathédrale Thibault, où on en est à peine à évaluer la sécurité du bâtiment.
Oui, exactement. L'heure est ici, toujours à la sécurisation du monument, avec des pompiers qui s'enferrent dans et autour de la cathédrale. Trois camions notamment, avec des nacelles sur les façades nord, sud et ouest. Ils ont travaillé évidemment toute la nuit avec deux chantiers prioritaires. Le premier, c'est la tour sud, celle que l'on voit sur la droite quand on regarde la cathédrale de son parvis. Elle a été très attaquée par les flammes et en cas d'effondrement, elle pourrait entraîner le pignon central entre les deux tours et donc menacer la façade et l'immense rosace à l'intérieur. Le deuxième gros chantier, eh bien, c'est le transept nord, la partie gauche de la croix quand on regarde la cathédrale du ciel. Il menace de s'écrouler sur les habitations d'une rue adjacente, la rue du Cloître Notre-Dame. Les habitants qui vivent en bas de la voie ont pu rentrer chez eux, mais les autres doivent encore attendre. Et notamment tout le personnel du diocèse. Les bureaux de l'archevêque de Paris sont en effet dans une zone toujours menacée. Les autorités ecclésiastiques sont donc obligées de préparer la semaine sainte et Pâques dans un climat très précaire. Notre-Dame n'est donc pas encore complètement tiré d'affaire. Il y a malgré tout quelques raisons de se réjouir. Hier soir, le coq qui trônait depuis près de deux siècles au sommet de la flèche de Viollet-le-Duc a été retrouvé dans les gravats. Cette statue en cuivre, qui était déclarée perdue jusque-là, contient des reliques qui, dans la tradition chrétienne et populaire, sont censées protéger les Parisiens.
Thibault Lefebvre en direct de Notre-Dame de Paris avec Sandrine Malon. Nous avons tant à reconstruire. Quand le président a prononcé ces mots hier soir, il fallait aussi penser à la France fracturée par la crise des gilets jaunes. On attend toujours les annonces promises. Je reviendrai vers vous, mais le moment n'est pas encore venu, a expliqué Emmanuel Macron. Alors qu'on sait ce qu'il devait dire lundi soir quand la cathédrale a brûlé, le texte de son intervention a fuité. Et parmi toutes les mesures évoquées, il y en a une qui retient particulièrement l'attention, c'est la suppression de l'ENA. Le président Yannick Faldt veut totalement réorganiser la formation des élites.
Le projet vise à révolutionner l'avant et l'après-formation des hauts fonctionnaires. L'avant, le recrutement, en ouvrant davantage le cursus aux milieux modestes, aux brillants étudiants de banlieue par exemple, le retour de l'ascenseur social, de la méritocratie, un coup d'arrêt à la reproduction des élites. L'après, le placement des futurs hauts fonctionnaires, le terrain d'abord, la fin de la fameuse botte qui permet aux meilleurs d'intégrer directement l'inspection des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Le terrain, personne ne pourra y couper en généralisant une expérimentation déjà menée. De jeunes énarques chargés par exemple du RSA en Guyane ou de Parcoursup, la plateforme de placement des bacheliers dans l'enseignement supérieur, c'est ensuite seulement, et s'ils ont fait leurs preuves, qu'ils pourraient intégrer les grands corps de l'État. De quoi réduire la déconnexion des élites, espère Emmanuel Macron, lui-même énarque, tout comme Édouard Philippe et leurs deux plus proches collaborateurs, Alexis Kohlert, le secrétaire général de l'Élysée, et Benoît Ribadeau-Dumas, le directeur de cabinet du Premier ministre.
Et avec l'ENA, l'école de la magistrature serait aussi dans le viseur du président. Pour le pouvoir d'achat, il devait annoncer un allègement des impôts pour les classes moyennes, la réindexation des retraites sur l'inflation en dessous des 2000 euros, des classes à 24 élèves partout jusqu'en CE1 et des RIC, des référendums d'initiative citoyenne au niveau local.
Il est 8h08, Florence, la retraite à 90 ans pour Jean-Marie Le Pen.
Le fondateur du Front National a fait ses adieux au Parlement européen hier, dernière séance à Strasbourg, après 35 ans passés comme député européen dans une institution, Simon Le Baron, qu'il n'a jamais cessé de conspuer.
Un dernier discours, moins de 4 minutes dans un hémicycle quasi vide, une dernière provocation sur ce qu'il appelle l'invasion migratoire.
Député qui est resté aveugle, sourd et muet, la postérité vous maudira.
Les derniers mots de 35 ans de mandat entre Strasbourg et Bruxelles. Et tout ça pour rien, ou presque.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce conte dans les lettres de mon moulin, d'Alphonse Daudet. Eh bien ici, nous sommes dans un moulin à vent.
Il le déteste, ce Parlement, qui a levé 6 fois son immunité pour ses propos antisémites ou pour l'emploi présumé fictif de son assistant, affaire dans laquelle l'institution lui réclame 320 000 euros. Mais la victime de l'escroquerie, c'est moi, dit Jean-Marie Le Pen.
On les retient sur mon indemnité parlementaire depuis plusieurs années. Et je dois vous dire que je dois, moi, vivre avec 3000 euros tous les mois.
C'est donc un modeste retraité qui, à 90 ans, aurait bien continué.
J'étais candidat, ma foi, je me sentais tout à fait encore en mesure de prolonger mon contrat, si j'ose dire. Mais bon, ce n'est pas le fait de ne pas être député européen qui m'empêchera de m'exprimer sur Internet, dans les meetings ou les réunions où je suis invité.
Et le fondateur du FN conclut, la vie commence toujours demain.
À l'étranger, Londres, face au blocage des écolos d'Extinction Rébellion, un mouvement qui réclame l'urgence écologique. Ces centaines de militants bloquent depuis lundi les lieux emblématiques de la capitale, Oxford Circus, le pont de Waterloo, Parliament Square devant Westminster. La police annonce avoir arrêté 300 personnes en deux jours. Aux États-Unis, le lycée de Columbine en alerte, comme une vingtaine d'autres établissements du Colorado. Les autorités recherchent une jeune femme armée, considérée comme extrêmement dangereuse. Le lycée de Columbine avait été le théâtre d'une terrible fusillade entre élèves il y a 20 ans. 12 ados avaient été tués. Dur de respecter ses engagements pour le climat. L'Allemagne ne va pas y arriver. Elle qui s'était fixée de réduire ses émissions de CO2 de 40% d'ici l'an prochain, elle ne dépassera pas les 32%. En revanche, le pays fait beaucoup pour les énergies renouvelables. Angela Merkel inaugurera aujourd'hui l'énorme parc éolien d'Arkona en mer Baltique, fruit d'une collaboration franco-allemande. David Philippot.
À 35 km des côtes, les pales géantes des éoliennes découpent l'air de la Baltique. L'énergie produite passe, avant de gagner le continent, par un gros transformateur juché au-dessus des flots.
C'est la plus grande sous-station en courant alternatif aujourd'hui dans le monde.
Fierté de Laurent Chastain, le directeur des chantiers de l'Atlantique, dont le savoir-faire s'exporte presque partout en Europe.
En Angleterre, en Belgique et donc celle-ci en Allemagne. Le grand regret qu'on a, c'est que le développement en France ne se fasse pas aussi vite. Il y a plein de raisons, il y a des raisons d'autorisation, mais il y a surtout beaucoup d'opposants. Et comme souvent en France, on écoute peut-être un peu trop les opposants.
La France, plus grande façade maritime du continent, ne compte toujours pas de champs d'éoliennes en mer, malgré un appel d'offres lancé en 2011. 2011, c'est la date à laquelle la chancelière Merkel a lancé la transition énergétique. Bilan d'étape lors de son discours d'inauguration.
Les énergies renouvelables, avec plus d'un tiers de la production, sont notre première source d'énergie.
Les 60 éoliennes du parc Arkona produisent à pleine puissance 385 MW. C'est assez pour alimenter 400 000 foyers. Sur l'île de Rügen, David Philippot pour France Inter.
Il est 8h12, on le trouve dans les bonbons, les chewing-gums, le dentifrice, Florence.
Eh oui, le dioxyde de titane pourrait bien être interdit en France. Le ministère de la Transition écologique devrait l'acter cette semaine. C'est une information France Inter. Un nouveau rapport de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation pointe sa possible toxicité. Sophie Bécherel.
Pourquoi attendre ? À lire le nouveau rapport de l'ANSES, les études scientifiques sont menées en trop faible quantité. Elles ne permettent pas de se prononcer sur l'innocuité du dioxyde de titane quand il est mangé. Alors, appliquons le principe de précaution. En 2017, une étude sur les rats avait semé le doute, mais à ce jour, il est impossible de fixer une dose journalière à ne pas dépasser. Aucune information non plus concernant l'impact sur le système reproducteur. En conséquence, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation ne peut que répéter le message d'il y a deux ans. Charlotte Grastilleur est la directrice adjointe de l'évaluation des risques à l'ANSES.
Depuis 2017, l'ANSES a recensé 25 étude de toxicité par voie orale pour l'additif E171. Sur l'effet global chez l'homme, on peut dire qu'il n'y a pas d'élément pour lever les incertitudes sur l'innocuité du E171. Mais nous pointons du doigt le fait que les intérêts nutritionnels sont nuls et que l'usage revendiqué, c'est un usage de coloration. Donc il convient vraiment de peser l'utilité d'un tel additif.
En clair, pourquoi continuer à manger ces bonbons, ces œufs en chocolat, ces glaces, ces chewing-gums qui contiennent des nanoparticules de dioxyde de titane et qui sont étiquetés E171? Face à la pression des consommateurs, les industriels ont déjà commencé à retirer cet additif. Dans les Malabar ou les têtes brûlées, c'est fini. Dans 10 mois, ce sera le tour des M&M's.
Le Barça et l'Ajax d'Amsterdam, demi-finalistes de la Ligue des Champions. Les Espagnols n'ont fait qu'une bouchée de Manchester, 3-0, dont 2 buts de Messi. Ils affronteront le vainqueur du match Liverpool-Porto ce soir. Les Néerlandais de l'Ajax, eux, ont gagné 2-1 à Turin. Comme adversaire, ils auront Manchester City ou Tottenham. Les deux derniers quarts de finale auront lieu à 21h. Enfin, c'est le printemps, Nicolas, et chaque année, le printemps se fête où ? À Bourges, évidemment. Ah oui. Le festival a démarré. La première grosse soirée aura lieu ce soir avant un hommage demain à une vieille connaissance du festival qui ne reviendra plus, hélas, Mathieu Culeron. Mais ses héritiers sont là.
Il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade. comme une folle.
Parmi les nombreuses créations cette année, on notera l'hommage que rendra le Printemps de Bourges à Jacques Higelin. Le chanteur disparu l'année dernière était présent lors de la première édition en 1977. Boris Vedel est le directeur du Printemps de Bourges.
Cette année, on avait vraiment envie de faire toute une place pour lui, l'hommage des enfants au père. Donc ça sera, je pense, un moment très précieux. C'est une figure tutélaire du printemps. Donc on lui devait de rendre cet hommage sous ce format un peu particulier. Je me rappelle d'une discussion avec Arthur H. l'année dernière au printemps. Et on parlait d'ombre lumineuse. Voilà, elle sera là à nouveau au Printemps de Bourges. Balance ton
quoi. Le Printemps de Bourges, dont le cœur reste et demeure la découverte et la création musicale. 84 artistes sur 127 sont émergents. Et la liste des jeunes talents devenus stars est longue. C'est un peu la fierté du patron du festival.
Je pense que c'est le rôle du printemps d'aller effectivement découvrir ces artistes de demain. Il y a quelques années, on découvrait Christine and the Queen, Fishback ou Eddie de Preto il y a à peine 2 ans. Angèle était en toute première partie d'Eddie de Preto l'année dernière. Aujourd'hui, elle pourrait faire peut-être 4 hôtels Arena, c'est incroyable.
Une première soirée qui débute avec les confirmés Hubert Félix Stéphane, Gaëtan Roussel et Beyrouth. Également présente la nouvelle génération hip-hop avec Giorgio, Alpha One ou encore Columbine.
Idée noire dans le brouillard, t'es ma lumière, bientôt tu me demanderas comment qu'on fait. Je sais pas, peu importe, moi je connais pas vos codes. Un jour t'as plus la cote, médite à l'occasion. Arc-en-ciel en polo Lacoste, 6 mois du soleil dans la cave. J'entends sonner mais je te laisse à la porte. On a compris.
Et comme chaque année, France Inter est fière d'accompagner le Printemps de Bourges. Soirée spéciale, Nicolas vendredi soir à partir de 21h avec Didier Varro.
Mais oui, vous y serez, Florence.
Bien sûr.
Le journal s'achève ainsi et on passe tout de suite à Merci Florence.